Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour ce nouvel éclairage qui va nous donner le plaisir de découvrir la FNEJ. La FNEJ étant la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, qui a été créée en 1968. Donc c'est déjà une institution extrêmement respectable. Et nous accueillons pour donc découvrir la FNEJ le délégué général Pierre-Louis Dubois. Pierre-Louis Dubois, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir. Merci d'avoir accepté. Je sais que vous êtes extrêmement sollicité par les temps qui courent. Et donc, nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir sur l'antenne de Canal Académie. Alors, je voudrais, avant que nous rentrions dans la présentation de la FNEJ, vous présenter vous-même en rappelant que vous êtes docteur d'État, agrégé de sciences de gestion. Vous êtes professeur à Paris 2, Panthéon d'Assas. Et vous êtes aussi donc professeur à l'ESCP EAP. Et vous êtes le délégué général de la FNEJ. Peut-être d'ailleurs, vous pouvez nous dire un mot complémentaire sur vous-même, c'est-à-dire ce que vous faites précisément dans vos activités. Vous êtes plutôt spécialisé, vous, sur le marketing et la...
Oui, alors mon domaine de spécialité sont les sciences de gestion, qui ne sont pas toujours très connues. Et dans les sciences de gestion, c'est plutôt le marketing. Et dans le marketing, certaines thématiques propres à la stratégie des entreprises, stratégie marketing, comportement du consommateur et beaucoup aussi le marketing relationnel. Et mes activités, c'est très simple. Moi, je suis un professeur, donc à la fois j'enseigne, je fais de la recherche. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est les professeurs qui administrent aussi. Donc j'ai la responsabilité à la fois de master, d'un centre de formation continue. Et maintenant, depuis peu, je suis aussi délégué général de la Fondation nationale d'enseignement des gestions des entreprises.
Voilà. Alors, nous rappelons que la FNEJ, après je vais vous passer la parole, donc, est un organisme paritaire et dont le président est Michel Bon. Alors Michel Bon, qui est un grand dirigeant très connu, qui est actuellement président de Dévotim et qui aussi, nous le connaissons à ce titre, président du grand jury du prix Turgot qu'il anime chaque année. Prix Turgot qui aura lieu donc dans quelques temps au Sénat le 5 mars pour être précis. Alors, on en vient donc à la FNEJ. Quelles sont ses missions?
Les missions de la FNEJ sont nombreuses. La FNEJ, en fait, a vocation à rassembler l'ensemble des établissements de formation et d'enseignement supérieur de la gestion et d'assurer aussi le lien entre ces établissements et l'ensemble des parties prenantes et notamment les entreprises, puisque c'est la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, mais aussi l'ensemble des organisations et aussi différents publics, c'est-à-dire tout ce qui peut concourir à la connaissance de l'entreprise et à la connaissance de la gestion, finalement, concerne la FNEJ. Alors, si je résumais ces missions, c'est un petit peu difficile. Je pense qu'il serait intéressant d'en donner un petit peu l'origine de façon
très brève,
passer un temps considérable sur l'historique.
Donc, on a bien dit que c'était un organisme paritaire. Donc, ça a été créé à la fois par les entreprises et par l'État.
Alors, c'était créé par l'État, c'était créé par les entreprises et naturellement, ça associe l'ensemble de la communauté académique. D'ailleurs, le conseil d'administration est quelque part, avec des proportions qui n'ont pas tellement d'importance, mais le reflet de, finalement, de ces différentes parties prenantes.
D'accord.
Et l'idée de départ, c'est une idée qui effectivement a aujourd'hui 40 ans, qui est de se dire que finalement l'enseignement de la gestion des entreprises en France n'était peut-être pas développé comme il le fallait. On peut toujours, je pense que c'était un diagnostic tout à fait juste, et qu'il était important d'avoir un corps enseignant de professeurs bien formés au management, à la gestion. Et donc le premier programme de la FNEJ, qui était un peu le programme historique, et qui en fait lui a donné quelque part sa légitimité de fondation reconnue d'utilité publique, ça a été d'envoyer des professeurs français aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, là où le management était déjà plus développé. Et nous avons de très nombreux collègues qui, en fait, sont allés faire des séjours longs aux États-Unis, ont obtenu des PhD, puis sont rentrés en France. Et en même temps, en France, se développait aussi dans les universités et dans les écoles, les grandes écoles, la gestion. Tout ça a convergé dans les années 70 pour donner un corps professoral qui, maintenant, s'est quand même développé de façon considérable.
D'accord. Et alors, aujourd'hui, où on est l'école, si je puis dire, de gestion française par rapport, on va dire, à ses grands concurrents, au moment où se posent beaucoup de questions sur la performance de l'éducation en France, la place de ces grandes écoles, et donc la matière gestion, elle se situe comment dans la concurrence mondiale ?
Et aujourd'hui, les enjeux sont internationaux. Oui. Alors, je crois que là, il faut faire à la fois preuve de modestie, mais il ne faut pas minimiser aussi ce qu'est l'enseignement de gestion en France aujourd'hui. Alors, on peut le voir d'un côté positif, ou bien sûr, comme toujours, d'un côté, je dirais peut-être...
La bouteille à moitié pleine ou à moitié vide.
Voilà, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, si on veut le voir d'un côté positif, on peut dire qu'il y a véritablement un corps de professeurs, de maîtres de conférences, de professeurs d'école en gestion qui est devenu important, qui obtient de très bons résultats. Il faut voir les classements. Si on prend le classement de Shanghai, naturellement, la gestion n'est pas tellement représentée. Par contre, si on prend le classement, par exemple, des MBA, où on prend le classement des diplômes de grandes écoles, on s'aperçoit, par exemple dans le Financial Times, qu'ils sont très bien classés. Il y a un nombre de doctorats. Nos doctorants sont très demandés. Beaucoup vont faire non seulement des séjours à l'étranger, mais sont aussi recrutés dans des établissements étrangers, internationaux. Donc, si on prend ça du côté à la fois du nombre et du niveau, on pourrait se décerner un certain nombre de satisfaits. Bon, ceci dit, la concurrence internationale, aujourd'hui, elle est très lourde. Il y a une très forte restructuration des établissements. Et comme toujours dans la concurrence, il ne faut surtout pas s'endormir sur ses lauriers.
Bien sûr.
Et on se rend compte qu'il y a des enjeux considérables. Alors, je vais vous donner un petit exemple très concret. Je suis nordiste, permettez-moi de prendre l'exemple de Lille.
Bon. Oui, c'est un très bon exemple, d'ailleurs.
Voilà. Parce qu'on parle toujours de sciences économiques et gestion. Naturellement, ce sont des disciplines assez sœurs. Mais vous prenez l'exemple lillois en gestion. Bon, vous prenez l'EDEC. Alors, je ne sais pas, le directeur saura dire mieux que moi combien d'étudiants, mais c'est de l'ordre de 4000.
Oui.
Vous prenez l'ESC, il y en a environ 2000. Vous prenez l'IESEG, il y en a environ 1200. Vous prenez l'ESA, Lille, il y en a 2000. Vous prenez Lille, il y en a 2000. Et puis, vous ajoutez à ça les écoles privées, vous ajoutez les formations en université où on fait de la gestion. Et je ne rajoute pas les formations où on fait de la gestion hors du domaine spécifique de la gestion, donc management du sport, etc. Vous arrivez à plus de 20 000 étudiants dans l'enseignement supérieur en gestion à Lille, c'est-à-dire une université
absolument considérable.
Considérable. Or, si on dit que c'est d'enseignement supérieur, il importe que, à ce moment-là, les professeurs qu'on met pour partie, parce qu'il y a aussi des professionnels, mais soient des professeurs d'enseignement qui peuvent enseigner à un niveau supérieur, c'est-à-dire qui non seulement peuvent assurer la diffusion des connaissances, mais aussi le progrès des connaissances, et donc la recherche. Alors là se pose un réel problème, comment former des enseignants-chercheurs?
Et là, vous touchez à un sujet d'actualité.
Je touche à un sujet d'actualité, mais qui est quand même très important et qui se pose de manière aiguë et véritablement, je dirais, très concrète dans notre domaine, qui est le domaine des sciences de gestion et du management.
D'accord. Et là, vous voyez comment vous les sorties de cette situation un peu de statu quo, des grandes interrogations. Non, sans rentrer dans le domaine de politique, mais vous pensez que on pourrait avancer sur quel domaine en particulier ?
À un moment, je pense qu'on peut avancer sur de très nombreux domaines, notamment bon, sur. Je veux dire que je crois que ce qui est important, je ne veux pas rentrer dans un certain nombre de détails, parce que ce n'est pas ici le débat, bien que nous, en tant que professeurs, vous imaginez que.
Bien sûr, vous avez votre avis.
C'est notre avis, puis on l'exprime. Oui. Mais je crois que pour nous, ce qui est véritablement très important dans ce domaine-là, c'est qu'on comprenne ce qu'est la recherche. Est-ce qu'on comprenne bien ce qu'est la recherche en gestion, qu'on comprenne à la fois ce que ça nécessite d'indépendance et ce que ça nécessite de temps et d'effort. On ne peut pas, dans ce domaine-là, mettre une horloge pointeuse. C'est quelque chose qui véritablement ne marche
Donc,
pas.
Donc tous les clichés autour de ça, où les gens disent « oui, mais enfin, ils n'ont pas beaucoup d'heures », cela.
Écoutez, ça vaudrait la peine, je ne vais pas le faire ici, mais ça vaudrait la peine, par exemple, d'expliquer, parce qu'on veut que les enseignants-chercheurs soient des enseignants-chercheurs à un niveau international, ce que c'est que la publication d'un article dans une revue scientifique à comité de lecture.
C'est considérable.
Le travail que ça demande, le nombre de va-et-vient, entre la lecture à l'aveugle dans les grandes revues, et en France on publie dans les grandes revues internationales et notamment en sciences de gestion, c'est un travail qui est tout à fait considérable et c'est véritablement l'apport à la connaissance. On dit souvent, avec une expression que j'aime pas du tout qui est galvaudée, des chercheurs qui trouvent, il y en a pas, mais si, des chercheurs qui trouvent, il y en a beaucoup, d'ailleurs ils publient et leurs publications sont acceptées et vous ne pouvez pas publier si vous n'avez pas un apport à la connaissance. Donc pour moi, c'est véritablement ça qui est très important. Et c'est cette identité du chercheur qu'il importe à la fois, non seulement de respecter, mais qu'il importe aussi de développer. C'est vraiment très important. Et je crois que c'est fondamental pour l'ensemble de l'enseignement de la gestion, que ce soit les écoles ou les universités, avec les normes EQUIS, les normes AICSB, qui sont les normes d'accréditation aujourd'hui internationales des grandes écoles, ou que ce soit dans la mission traditionnelle de l'université, le problème est le même. Il faut publier au niveau international. Bien sûr, on y reviendra. Pour moi, il n'y a pas que la publication qui compte. Mais la publication est nécessaire et à un très bon niveau.
Alors, écoutez, là, je crois que vous avez été extrêmement clair et vous êtes un excellent avocat de cette cause. Nous le retenons. Ce n'était pas le but de la manœuvre, mais enfin, bon, c'est un petit plus. C'est la cerise sur le gâteau. En tout cas, merci pour cette conviction extrêmement forte. On revient donc plus dans le cœur de notre sujet central. Alors, la FNEJ, donc, elle a beaucoup contribué à l'internationalisation des établissements français de gestion. Elle a aidé à la délocalisation des programmes, soit en facilitant des partenariats avec des établissements étrangers, soit avec d'autres actions. Donc aujourd'hui, c'est un lieu d'échange privilégié entre les universités, les instituts d'administration des entreprises, les IAE et les grandes écoles, et les autres actions, les autres missions de la FNEJ. C'est quoi ?
Alors, la FNEJ a de nombreuses missions. Elle a d'abord une mission qui est extrêmement importante, qui est le lien entre le monde académique et les entreprises.
Bon, ça c'est le premier point.
C'est un point extrêmement important. C'est un point qu'on cherche à développer de multiples manières, à la fois par publication, mais aussi par exemple, actuellement je vais vous parler de projets, c'est pas encore fait, mais je pense que quand on fait partie d'une fondation, puis surtout quand on vient d'arriver, on a un certain nombre de projets. Moi ce qui me ferait plaisir, c'est de réussir un des projets par exemple, qui est le fait qu'on puisse développer des thèses de doctorat en apprentissage. Et je crois que c'est parfaitement possible, c'est pas du tout soumettre les étudiants à l'entreprise, mais c'est partir de problématiques qui sont réelles. Nous sommes quand même en gestion des entreprises et des organisations publiques ou privées. Il y a des thématiques qui sont extrêmement importantes dans les entreprises aujourd'hui, notamment en ces temps de crise, et qui concernent à la fois les finances, le marché des biens et services, le marché du travail. Et j'entendais l'autre jour, par exemple, la présidente directrice générale d'une société qui est une société de gestion des ressources humaines qui disait moi, ce qui m'intéresserait, c'est quand même d'avoir des apports dans le domaine de ce qu'elle appelle la gestion distribuée. C'est-à-dire, en fait, quand on a 1000 unités, 3 personnes, comment on gère ça du point de vue de gestion des ressources humaines.
Mais ça se fait pas un petit peu à travers le CIFOP et enfin de Paris 2. Enfin, c'est un peu cette approche. Mais...
moi, je suis de Paris 2, vous me permettrez de ne pas tout ramener à Paris 2.
mais c'est le cas.
Mais on a des thèses de gestion qui sont des thèses qui, dans toutes les universités, dans toutes les grandes écoles, qui concernent énormément de domaines. Il est vrai qu'on ne part pas d'une situation zéro où il n'y a aucun lien.
Mais quel serait le plus, enfin, pour nos auditeurs, le fait de faire des thèses à travers donc l'apprentissage, ça apporte quoi de plus par rapport à l'existant ? C'est-à-dire qu'on est plus, on colle plus aux passerelles entreprises.
D'abord sur les thématiques, qui seraient les thématiques de thèse, elles seraient proposées par les entreprises.
D'accord. Donc
ensuite, chaque responsable d'entreprise et je dirais tuteur en entreprise offrira un apprentissage avec un tutorat et la thèse elle-même serait définie dans le cadre de l'école doctorale avec bien sûr un professeur des universités en sciences de gestion, un professeur habilité dans les grandes écoles et ces professeurs auraient pour mission naturellement de suivre sans renoncer à aucune des exigences académiques, le thésard, le doctorant, de façon à ce qu'il avance et qu'il puisse aider, non pas forcément la résolution, mais au moins l'avancée du problème, à sa mise en, je dirais, en forme et au moins, et le plus possible, aller vers des implications, ce qu'on appelle, nous, un peu prétentieusement, des implications managériales, c'est-à-dire des règles, aller le plus loin possible dans le savoir et la transformation du savoir et de la connaissance en action. Et là, il y aurait véritablement, pendant 3 ans, la possibilité pour le doctorant à la fois d'être totalement pris dans le cadre de son école doctorale, d'avoir en plus un certain nombre de formations qui seraient assurées dans le cadre du centre de formation à la gestion de la FNEJ, qui serait un supplément, et aussi de bénéficier, là, dans l'entreprise, de tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réaliser un travail, qui soit un travail, cette fois-ci, qui soit pas éloigné totalement des réalités concrètes de l'entreprise.
L'alternance, c'est dans l'air du temps. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même des démonstrations qui ont été faites que c'était une approche pour réconcilier ou pour rapprocher entreprise et formation académique et universitaire.
Écoutez, si on prend aujourd'hui les centres de formation des apprentis, alors je parlais de celui que je connais le mieux, celui qui est le plus proche, parce que, bon, simplement, géographiquement, du centre de formation permanente de Paris 2, mais c'est certainement pas un exemple unique. Il y a plus de 100 formations de l'enseignement supérieur dans ce centre. Alors, ce sont des masters, mettons 20-25 étudiants par formation master, 100 par 25, vous voyez tout de suite, ça fait 2500 apprentis. Je veux dire que le taux d'insertion professionnelle de ces apprentis est remarquable. Mmh. C'est au niveau master. Je crois que pour l'université, comme pour les grandes écoles aujourd'hui, c'est l'apprentissage, l'ESSEC était un peu pionnière en la matière. L'apprentissage est devenu un des aspects de la formation les plus intéressants dans une des missions de l'université, parce que bien sûr, il y a la progression des savoirs, il y a la diffusion des savoirs, il y a la conservation des savoirs, mais il y a aussi, depuis, c'est exprimé de façon très claire maintenant, la professionnalisation, hein, pour ne pas laisser les étudiants après leurs études sans emploi. Et je crois qu'au plan de la professionnalisation, surtout avec l'idée de faire des étudiants adaptables et non pas adaptés. Hein, c'est-à-dire que l'étudiant a la liberté après de pouvoir exercer plusieurs métiers. C'est ça qu'il importe de respecter aussi, que l'étudiant soit adaptable. C'est-à-dire qu'après, il ait encore toute une liberté de choix. Et non pas adapté seulement, on se souvient d'étudiants totalement adaptés, on ne va pas reprendre des clichés comme les mécanographes qui ne pouvaient rien faire d'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent des choses. Et je crois que c'est vraiment dans ceux qui ont pensé l'apprentissage, dans l'enseignement supérieur, à cette conception d'apprentissage, ça c'est une grande idée.
Bien, Pierre-Louis Dubois vient de nous ouvrir son cœur en nous disant que sa priorité, son premier objectif, en tout cas ce qui lui ferait plaisir, ce serait de réaliser cette approche de thèse à travers l'apprentissage. Nous allons revenir sur les autres projets de l'AFNEJ dans quelques instants après une pause. Merci à vous.
Napoléon n'aura plus de secret pour vous à l'écoute des nombreuses émissions de Jean Tullard sur Canal Académie. Écoutez Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Nous retrouvons, chers amis auditeurs, sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour ce nouvel éclairage, le délégué général de l'AFNEJ, Pierre-Louis Dubois, avec lequel nous allons revenir sur les grandes missions de l'AFNEJ, donc la Fédération nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Alors, on a déjà eu un aperçu. Donc, quelles sont ces grandes missions en synthèse de l'AFNEJ ?
Écoutez, si je devais en distinguer trois, parce que c'est ce qui est intéressant dans une fondation, c'est que les missions, il y a bien sûr, je dirais, un cadre général, mais après, une fois qu'on a dit tout ce qui peut favoriser l'enseignement de la gestion et en France et même à l'international et le rayonnement, je pense que ça ouvre de nombreuses voies. Mais disons d'une façon simple. D'abord, une mission d'information. Il est vrai que les disciplines de gestion ne sont pas forcément très connues. Elles sont aussi très complexes avec de nombreuses variétés. Il y a une mission d'information et cette mission d'information, elle va entraîner un certain nombre d'actions. Bon. Deuxième point, il y a tout ce qui va être les missions de réflexion. Et Dieu sait si en ce moment, il y a des sujets. Et puis aussi d'expression publique. L'AFNEJ est quand même le lieu où l'ensemble des institutions d'enseignement peuvent parler, lorsqu'elles sont d'accord, et c'est le cas le plus fréquent, on les réunit souvent, d'une même voix. C'est un des lieux où se rencontrent, par exemple, l'ensemble des différents types d'enseignement, que ce soit l'enseignement universitaire, l'enseignement consulaire, l'enseignement privé. Les grands établissements de gestion se rencontrent, dans le cadre de l'AFNEJ, de façon très régulière. D'ailleurs, on a une réunion cette année, encore en juillet.
Quelle est la population au niveau des entreprises ? Ça représente un cercle de combien d'entreprises qui sont proches de vous ? Les grands chiffres.
Je peux vous donner une réponse évasive, mais c'est indéfinissable, parce que l'AFNEJ, surtout, fédère l'ensemble des institutions de gestion. Et par l'intermédiaire des institutions de gestion, suivant les programmes, on peut avoir un contact avec un nombre d'entreprises qui est tout à fait considérable. Alors, c'est vrai qu'il y a des entreprises parfois qui sont plus proches. Par exemple, quand on prend un certain nombre de personnes qui participent aux instances de l'AFNEJ ou par exemple au conseil d'administration.
Mais sûr, il y a une proximité naturelle.
Mais ce n'est pas ça l'objectif. Oui. L'objectif, eux, sont un petit peu des porte-parole de l'ensemble du monde des entreprises. Et nous, ce qui nous importe, c'est d'être attachés à toutes les entreprises. Alors là, sans distinction, c'est-à-dire à la fois la très grande l'entreprise jusqu'à la PME ou la TPE. Le séminaire que l'on lance, là, c'est sur l'entrepreneuriat. Alors, vous voyez qu'on n'est pas...
Mais je veux dire qu'il n'y a pas une cotisation obligatoire de toutes les entreprises. C'est peut-être un rêve, d'ailleurs, ça.
Bah, moi, je ne demanderais pas mieux. Mais bon,
non,
on n'y est pas encore arrivé.
D'accord.
On n'y est pas encore arrivé. Non, simplement, mission par mission ou action par action, on reçoit l'aide d'entreprise sur un certain nombre de types d'actions que l'on a conduit.
En revenant sur les missions, je vais vous faire une digression.
Pour être simple, dernière mission, tout ce qui va être, enfin, je vais en donner encore deux, tout ce qui est aide à la formation et à la recherche, c'est-à-dire que là, on contribue, on cherche toujours à contribuer par un certain nombre d'actions au développement de la formation, au développement de la recherche dans l'enseignement supérieur. Et dernière mission, c'est une mission de rayonnement. Et le rayonnement peut s'étendre à, je dirais, à toutes sortes de pays. Naturellement, nous, si on peut arriver à ce que... Une fonction de subsidiarité de la FNESH, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas ce que les grands établissements, universités ou écoles font déjà très
bien.
Donc elle rayonne déjà, donc on ne va pas aller se substituer. Par contre, il est vrai, par exemple, il y a des pays où il y a des zones où nous sommes peu présents. Et par exemple l'Iran.
Donc vous êtes ambassadeur en quelque
sorte. Donc on cherche à ouvrir des formations là-bas et à jouer le rôle d'ambassadeur. Et à chaque fois, on s'appuie sur les... Après, parce que la FNESH ne délivre pas en soi de diplôme. Elle peut...
C'est un réseau.
C'est un réseau. Donc la FNESH peut proposer des séminaires, elle peut proposer de la formation de formateurs, mais les diplômes eux-mêmes sont toujours délivrés par une université ou par une école, une grande école. Et donc à ce moment-là, on travaille et puis on fédère un certain nombre d'universités, de grandes écoles qui, à ce moment-là, vont aller délivrer leurs diplômes. Puis le rôle de la FNESH, c'est pas d'essayer d'avoir ses propres diplômes et de les faire durer. C'est au contraire, une fois que ça se développe bien, la FNESH était pionnière, par exemple, dans de très nombreux pays. Et aujourd'hui, ce sont les établissements qui sont présents dans ces pays. Et ça, c'est une mission réussie.
Alors, dites-nous un mot sur l'Iran, parce que ça peut surprendre. Donc, vous avez parlé de l'Iran tout à l'heure en disant on essaie de pousser les feux de ce côté-là. C'est une situation favorable actuellement de pousser les feux.
Écoutez, on ne prend pas le problème sous
l'aspect géopolitique.
Sous l'aspect géopolitique en disant est-ce que c'est une situation favorable ou pas, parce qu'à ce moment-là, elle évoluerait, puis on engagerait des personnes dans les formations, puis on leur dirait non, maintenant ça ne va plus parce qu'il y a une tension, on arrête, on ne peut pas travailler comme ça. Moi, je pense que dans tous les pays, il y a véritablement un besoin de développement. Et ce besoin de développement, il passe forcément quelque part par...
Une forme de partage de savoir.
De partage de savoir et la formation des personnes de façon générale. Nous, dans notre domaine, sont les sciences de gestion. Et je pense que former les personnes aux sciences de gestion, leur donner l'intelligence des situations, l'intelligence de tout ce qu'on... de ce qui se passe dans le monde. Parce que dès qu'on fait, par exemple, de la gestion d'entreprise, on est forcément dans un monde concurrentiel. C'est une ouverture. Et je pense qu'il est vraiment très important de ne pas isoler. C'est ce qu'il n'y a rien de pire que d'isoler un pays. Alors, c'est pas, naturellement, ce n'est pas un parti pris qui se voudrait politique ou quoi que ce soit. C'est simplement la mission générale de la FNESH qui est de développer l'enseignement de la gestion des entreprises et développer la connaissance dans ce domaine. Ça n'a pas de limite. Je crois qu'il est important qu'on puisse répondre aux demandes dans ce cadre-là.
Ce que vous dites nous touche directement, puisque Canal Academy a cette vocation aussi de diffusion et de partage du savoir à travers le monde, en particulier sur la francophonie. Donc ça m'amène à vous poser la question, vous avez des liens particuliers avec des entreprises francophones ou non, elles sont pas plus.
On suit et la plupart des diplômes sont quand même enseignés en français.
Oui.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le domaine des sciences de gestion, de temps en temps, le moyen d'être efficace, parce que si vous ouvrez un diplôme en français et que personne ne s'inscrit, ça ne sert strictement à rien de mener cette action. Et la langue des affaires est aujourd'hui très fréquemment l'anglais. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est le plus possible de faciliter, de rayonner au niveau de l'enseignement de gestion français, mais de temps en temps, ça passe par des enseignements en langue anglaise. Ça peut paraître paradoxal, mais avec des professeurs français qui donnent la conception du management telle que nous l'entendons en France. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de plus en plus de formations dans les écoles, dans les universités, qui se donnent en langue anglaise.
Bien sûr, bien sûr.
Non, mais c'est pas du tout contradictoire. Mais enfin, les entreprises francophones, je pense notamment au Forum francophone des affaires, constituent un groupe très, très, très dynamique. C'est pour ça que je vous posais la question. Mais il ne s'agit pas pour les entreprises francophones, en tout cas, je ne peux pas parler à la place de son président, mais de dire attention, on est entreprise francophone, donc l'anglais est tabou, etc. Non, non, c'est pas. Heureusement, parce que.
Non, mais ce lien peut se faire très, très facilement. Je pense que là, on serait tout à fait en accord sur la position. C'est que nous, dès qu'on peut développer la francophonie, vous imaginez bien que c'est notre culture et qu'on souhaite tous développer la francophonie. Mais je crois que là, il faut une attitude ouverte et vouloir dire, puisque je développe la francophonie, je n'accepte que des choses en français, ça ne me semble pas la bonne solution.
Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, voilà pour les missions. Autre action un peu phare, est-ce que vous publiez aussi Alors, il y a une question juste avant, si vous permettez, c'est, en fait, en termes de structure, la FNEJ, vous êtes nombreux ou c'est une petite équipe, je suppose?
Alors, la FNEJ, justement, c'est une petite équipe, c'est une équipe du une dizaine de personnes. Je vais reprendre l'expression de Michel Bon, le président de la FNEJ. La FNEJ est la maison commune. C'est-à-dire qu'en fait, nous, si on devait tout faire avec notre petite équipe de 10 personnes, on ne ferait vraiment pas grand-chose. Et on arrive à faire, je pense, j'espère quand même, on a beaucoup d'actions, parce que véritablement, encore ce matin, j'étais avec des collègues de différentes écoles et universités, et à chaque fois qu'on fait un programme, à chaque fois qu'on monte des séminaires, à chaque fois qu'on réfléchit à des publications, à chaque fois qu'on décerne des prix de thèse, on le fait toujours avec les parties prenantes, les écoles, et en demandant aussi à des responsables d'entreprise, bien sûr, de participer à nos actions. Donc, je dirais que c'est un peu notre vocation. Je ne pense pas qu'on ait vocation à devenir une bureaucratie.
C'est ça, c'est ça. Donc, vous êtes là pour impulser,
On a un rôle d'impulsion.
Et c'est ça. En fait, dans les structures de second niveau comme la vôtre, il y a toujours les moyens restent dans les structures adhérentes. Alors, je vous posais la question de vous publier aussi, peut-être.
Alors, il y avait une publication qui était sous l'égide de la FNEJ, qui est la revue française de gestion, et qui est importante. Et la FNEJ a toujours aidé et cherche toujours à faciliter les publications dans le domaine des sciences de gestion. Mais aujourd'hui, il y a eu un phénomène depuis une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans maintenant, qui est la création des associations scientifiques, des associations savantes, alors dans tous les domaines, marketing, gestion des ressources humaines, finance, entrepreneuriat, système d'information, stratégie, qui ont leur propre revue, leur propre publication. Là encore, il ne s'agit pas pour la FNEJ d'avoir de se substituer. Par contre, on publie des rapports, on publie régulièrement. L'année dernière, on a une publication vraiment importante, puisque tous les deux ans, il y a les états généraux du management. Et là, il y a une publication. Après, il y a une publication sur l'Observatoire des formations à la gestion, donc qui permet de se renseigner sur l'ensemble des formations à la gestion. Et actuellement, on est en train de travailler sur une refonte totale du site Internet qui permettrait de donner toute l'information. Quelqu'un qui choisit master, région... PACA et coaching, qui puissent trouver immédiatement les formations s'il y en a dans cette région-là.
Une facilité d'accès.
Et la FNEJ souhaite, et ça on est en train de le mettre en œuvre, publier des rapports, des comptes rendus, en se saisissant de grands thèmes d'actualité ou de grands thèmes importants, que ce soit d'ailleurs dans la communauté académique. En ce moment, on a un groupe qui travaille avant qu'il y ait la crise sur l'évaluation des enseignants-chercheurs en gestion. D'accord. Et donc ce groupe remettra certainement un certain nombre de conclusions au mois de juillet. On n'a pas changé le timing.
C'est un sujet sensible, l'évaluation.
Il est devenu sensible, mais...
vous aviez travaillé avant.
On est en train d'y travailler. Et moi, je trouve que c'est important parce que quand vous interrogez... je vis dans une université de droit. J'ai vécu longtemps dans des universités de sciences. Il est évident qu'on ne peut pas passer les juristes et les scientifiques à la même aune. C'est tout à fait... Et alors, en sciences de gestion, il faut qu'on s'exprime aussi. Il faut dire, comment juger un professeur de sciences de gestion?
Sa performance.
Alors, je ne vais pas vous donner le résultat avant les conclusions de la commission.
On vous invitera à nouveau.
Oui, c'est gentil. Moi, si je donnais une petite opinion personnelle, elle peut être en deux points. Les revues scientifiques et comités de lecture sont aujourd'hui indispensables au niveau international. Et donc, ça doit être un des éléments d'évaluation. Deuxièmement, en sciences de gestion, n'avoir qu'une évaluation par les revues scientifiques et comités de lecture me semble tout à fait insuffisant. Et donc, de ce fait-là, il y a certainement un moyen terme à trouver, des formules à trouver pour associer l'ensemble des missions des enseignants-chercheurs en sciences de gestion. Bon, peu importe ce que je dis, ce qui est important, c'est que la communauté académique en lien aussi, parce que je crois qu'il est important qu'il y ait des personnes des entreprises aussi, qui, puisqu'on est en sciences de gestion, réfléchissent à ça. Et puis qu'on voit par ailleurs, bon, si on a une unité ou s'il y a plusieurs points de vue, et comment faire, et qu'on publie un certain nombre d'éléments sur les principes qui nous semblent devoir être ceux de l'évaluation d'un enseignant-chercheur en sciences de gestion. Et ça, on fera une publication là-dessus.
Un dernier mot, Pierre-Louis Dubois, sur le sujet de la FNEJ. C'est ce qu'il y a un dernier message que vous voulez passer, parce que le temps passe très vite en vous écoutant.
Écoutez, moi, ce que je souhaite, hein, je reprendrai l'expression qu'a prise Michel Bon tout à l'heure. Moi, je souhaite vraiment que ce soit à la fois, je dirais deux choses, la maison commune et que ça le soit de plus en plus. D'ailleurs, on a de plus en plus de collègues qui passent, qui viennent avec des projets. On lance des séminaires, un sur l'entrepreneuriat, certainement d'autres séminaires qui sont en train d'être tout pour publier. Donc, on se saisit de projets, on se saisit et ça, ça concerne l'ensemble de la communauté académique. Et mon deuxième souhait, c'est que vis-à-vis de l'ensemble des publics, parce qu'on a eu par exemple un test qui a eu plus de 15 000, qui a été fait plus de 15 000 fois sur le net cette année, sur les connaissances en gestion. C'est-à-dire l'ensemble des publics, que ce soit le grand public, que ce soit le secondaire ou que la connaissance en sciences de gestion, et je parle bien de la connaissance, il ne s'agit pas d'ici de donner des opinions, mais que la connaissance en gestion, la connaissance de ce qu'est l'entreprise, puisque c'est un peu notre vocation, puisse être bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup plus complète, parce que je pense que pour moi, ce qui est important, c'est une fois qu'on a la connaissance, on peut prendre des positions. Mais si on commence à confondre chiffre d'affaires et bénéfices quand on lit le journal, c'est très difficile, oui. Vous comprenez, de prendre après des positions.
Ça, c'est un autre sujet, c'est celui de l'inculture de bon nombre de nos compatriotes en matière d'économie et de gestion aussi. Ça, c'est un autre sujet, mais je sens que vous voulez dire un petit mot sur le sujet.
Je pense pas que les personnes soient inquiétées. Je pense que ce qui était frappant dans le test de la FNEJ, c'est qu'elle connaissait bien, vous voyez, un certain nombre d'éléments. L'entreprise, qu'on puisse créer une entreprise avec un euro, ce qui est proche, ce qu'on leur explique, et ce qui est proche, les personnes, c'est nous, et nous sommes ni plus intelligents ni plus bêtes que les autres. Et je pense que le grand public a toutes les qualités pour comprendre. Simplement, ce qu'il faut, c'est quand même qu'à un moment, il y ait une information et que cette information elle puisse être diffusée et que cette information soit la plus pédagogique possible, la plus claire possible. C'est ce qu'on s'efforce de faire.
Et en tout cas, vous le faites très bien et vous venez de nous parler avec passion de l'enseignement de la gestion par les actions de la FNEJ, cette maison commune. Et une nouvelle fois, nous vous remercions de votre disponibilité. Nous aurons grand plaisir à vous retrouver sur cette antenne. Merci à vous, Pierre-Louis Dubois. Merci à la FNEJ.
C'est moi qui vous remercie.